remue-ménage. Remue-ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour et bienvenue dans Onde Femme sur Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis, en direct de 17h jusqu'à 21h. Et tout de suite, pour commencer, c'est Remue-ménage de 17h jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, je reçois nos amis de la librairie des femmes L'Inédite, Annette Zimmermann et Evelyne Merlac. Alors, tout de suite, nous nous retrouverons avec elles. Elles ont deux livres à vous proposer, deux gros livres, nous en parlons tout de suite. Mais pour commencer, une très belle chanson d'Ella Fitzgerald dans un nouveau CD, enfin un réenregistrement d'un concert qu'elle avait donné à Berlin en 1961. Ella Fitzgerald. This can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spells. My head is up in the sky. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well. But still I love to look in your eyes. This can't be love because I feel so well.
Can't be love. My heart does not stand still. Just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well. Still I love to look in your eyes. I love to look in your eyes.
Miss Ella Fitzgerald in Berlin en 1961 et c'est dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Je vous le disais, aujourd'hui, notre rencontre mensuelle et on commence l'année avec un petit mois de retard, mais on se retrouve avec d'autant plus de plaisir. Bonjour Annette, bonjour Evelyne.
Bien sûr, bonjour Catherine.
Et aujourd'hui, nos deux amis ont deux gros livres à vous proposer. Alors comme ça, pour vous mettre dans l'ambiance de ces livres, eh bien, elles se proposent de vous lire chacune un extrait, puis peut-être que vous devinerez de qui il s'agit et quels sont les livres en question.
Comment pourrait-elle ne pas partager ce sentiment et, dans cette époque où les femmes qui veulent incarner la volonté du peuple marchent courageusement à la potence, ne pas se sentir attirée par ce mot qui fait peur, socialisme ? Elle l'entend murmurer au lycée par quelques élèves dont elle se rapproche. Ils savent que, à Varsovie, un Polonais rentré d'exil en Suisse, Ludwig Warinski, a créé un mouvement, le prolétariat, que d'autres jeunes gens ont organisé un groupe, le peuple polonais, autour d'un écrivain, Bolesław Limanowski, et que ces patriotes évoquent eux aussi le mot de socialisme. En avril 1883, les militants du prolétariat réussissent à susciter une série de grèves en Pologne qui culmine dans une grève générale dans les banlieues de Varsovie. Il faut envoyer la troupe pour briser ce mouvement et les arrestations se multiplient.
Il y a encore peu, c'était la femme le continent noir de l'humanité, et nul ne songeait à questionner l'homme. La masculinité paraissait aller de soi, lumineuse, naturelle et contraire à la féminité. Les trois dernières décennies ont fait voler en éclats ces évidences millénaires. Parce que les femmes ont entrepris de se redéfinir, elles ont contraint les hommes à en faire autant. XY reste la constante, mais l'identité masculine n'est plus ce qu'elle était. Preuve qu'elle n'était pas inscrite dans le marbre.
Chères auditrices, chers auditeurs, est-ce que vous avez deviné de quel livre nous allons parler cet après-midi en compagnie d'Annette et Evelyne, nos amies de la librairie des femmes L'Inédite à Genève ? Oui, non, les téléphones crépitent. Eh bien, Annette, alors, quel était l'extrait de ton livre ?
Alors, il s'agit d'un livre écrit par Max Gallo et qui parle d'une femme rebelle. bien sûr, cette femme rebelle, je pense que plusieurs d'entre vous l'ont reconnue. Il s'agit de Rosa Luxembourg, qui est effectivement une héroïne actuellement, aujourd'hui une héroïne, mais à l'époque c'était encore autre chose, du début du siècle en Allemagne et en Pologne.
Voilà, alors tu nous as lu un extrait qui situe les événements en Pologne. Oh, il faut peut-être d'emblée dire qu'on connaît surtout Rosa Luxembourg parce qu'elle a vécu en Allemagne essentiellement. Elle a quitté la Pologne pour aller vivre en Allemagne. Donc on oscillera de ces deux situations, de son origine à la situation de l'Allemagne, de cette période. Est-ce qu'on peut situer dans le temps la vie de Rosa Luxembourg ? Peut-être que nos auditrices s'imaginent qu'évidemment, ce n'est pas une héroïne d'avant-hier.
Non, bien sûr, mais c'est vrai que je pense que beaucoup de gens connaissent le nom de Rosa Luxembourg.
Je crois aussi.
On peut-être savent bien sûr la situer sur le plan politique, à l'extrême gauche, bien entendu. Et à part ça, qu'est-ce qu'on sait vraiment de Rosa Luxembourg ? Pas forcément beaucoup de choses si on n'est pas un spécialiste de l'histoire. Ce qui est d'ailleurs mon cas, j'aime bien les biographies, mais je ne suis pas une spécialiste historienne. Et dans ce sens-là, j'ai eu énormément d'intérêt et de plaisir à lire cette biographie qui, il faut le dire d'emblée, est accessible à tout le monde, dans le sens qu'elle est écrite d'une manière assez simple et qu'on apprend beaucoup de choses en lisant un livre qui se lit à la même... qu'on peut dévorer comme un roman, littéralement. C'est un roman difficile et pénible dans le sens que l'héroïne, évidemment, va beaucoup souffrir et va avoir pas mal de déboires. Quand on sait que c'est une biographie et non pas un roman, c'est évidemment d'autant plus douloureux pour le lecteur ou la lectrice, mais ça reste tout à fait intéressant.
Alors donc, situons dans le temps, Rosa Luxembourg est née en 1871, elle sera assassinée
en 1919, juste après la fin de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, le sous-titre que Max Gallo a donné à son livre, c'est « Vie et mort » de Rosa Luxembourg, dans le sens, je pense, que la façon dont elle meurt, littéralement assassinée par la police allemande, est effectivement aussi extrêmement révélateur de toute la situation politique et historique que vivaient l'Allemagne et l'Europe, d'ailleurs, à ce moment-là. Donc c'est vrai que sa mort signifie aussi beaucoup de choses, indépendamment des circonstances.
Peut-être peut-on rajouter que cette époque est souvent citée comme étant la belle époque au niveau historique. Et quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que la belle époque, ça l'était pour une poignée de gens privilégiés, mais qu'en tout cas, ce n'était pas le cas du peuple qui vivait une situation difficile. Et évidemment, Rosa Luxembourg, on la retrouvera aux côtés de ces gens-là et non pas aux côtés des privilégiés de la belle époque.
Alors tout à fait. Effectivement, ce livre en aucun cas n'est un reflet de cette belle époque qu'on peut voir chez les antiquaires. C'est tout à fait autre chose. Et c'est là le grand mérite de Max Gallo, je pense, c'est d'avoir rendu accessible à tout le monde l'histoire difficile de ce début du siècle et la portée, disons, de ces intellectuels engagés aux côtés du peuple ou avec lui.
Alors juste avant de continuer, Annette, sur ce livre, peut-être pour appâter nos auditrices et nos auditeurs, on devrait leur dire quand même quel était le titre du livre dont Evelyne nous a lu un extrait
pour qu'elle
sache ce qui va suivre dans la deuxième partie de notre émission. Alors Evelyne, tu nous lisais un extrait dont déjà nos auditrices auraient pu deviner parce qu'il y a quelque chose dans ce que tu nous as lu qui est extrait du titre.
Il y a XY, tu veux dire.
Voilà.
Alors, si Annette parle d'un livre écrit sur une femme par un homme, moi je vais écrire d'un livre écrit par une femme sur les hommes.
Je n'ai pas pensé à cette subtilité. Bravo.
Et cette femme, c'est Elisabeth Badinter. Mais on verra, disons qu'elle n'est pas seule, en fait, comme auteur de ce livre. Et le livre s'appelle donc XY de l'identité masculine.
Tout de suite, on sait que le titre a été trouvé par le fils d'Elisabeth Badinter. On le découvre tout de suite dans les premières pages. Il est bien, ce jeune homme.
Effectivement, elle dit, oui, en exergue, pour mon fils Benjamin, qui m'a fait cadeau du titre de ce livre. Je le trouve bon, d'ailleurs, le titre.
Oui. Mmh. Alors, on disait, publié aux éditions Adil Jacob. C'est ça, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Alors, effectivement, le petit extrait que tu nous as lu nous annonce déjà bien un tout petit peu dans quel sens elle va chercher à parler de cette identité masculine. En deux mots, peut-être, pour de nouveau appâter nos auditrices.
Identité masculine qui est en crise. Donc, elle va nous exposer la crise et une interprétation ou des interprétations de cette crise. Elle va nous dire un peu comment se construit un mal. Je reprends les titres des chapitres. Mm-hmm. Et ce que ça signifie être un homme aujourd'hui et quel avenir prochain on peut voir se dessiner maintenant pour cette identité des hommes d'aujourd'hui, des hommes de demain. C'est un petit peu les grands thèmes qu'on va reprendre aujourd'hui. Bon, c'est un livre de 300 pages, donc évidemment on va choisir.
Oui, je crois que ça, il faut le dire à propos des deux livres que vous allez nous présenter aujourd'hui. Tous les deux, comme je disais tout à l'heure, sont des gros livres.
Tout à fait.
Donc évidemment, on ne va pas feuilleter comme ça, page après page, non. Ces deux livres. On va choisir, vous avez choisi les morceaux qui vous semblent le plus intéressants, une ligne directrice qui vous semble la plus intéressante, et c'est cela que nous allons évoquer. Alors, revenons peut-être pour commencer à Rosa Luxembourg, portrait écrit par Max Gallo. Peut-être en deux mots, Max Gallo a fait souvent des portraits d'ailleurs historiques. Hein, c'est un peu un spécialiste.
Oui,
il
entre
avait
autres,
fait Robespierre, non, si je me
et il a fait surtout Jean Jaurès.
Ah, voilà.
Et je pense qu'en étudiant Jean Jaurès, il avait déjà lu pas mal de textes de l'époque, notamment les écrits de Rosa Luxembourg, qui est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup écrit, pas forcément publié, bien sûr. Elle écrivait surtout dans des journaux, des articles, elle faisait des traductions. Elle a une correspondance extrêmement importante. Et je pense que Max Gallo avait déjà eu accès à cette correspondance à l'époque où il travaillait sur Jean Jaurès. Il cite d'ailleurs la rencontre dans ce livre de Jaurès avec Rosa Luxembourg. Et dans ce sens-là, il connaît très très bien ce moment de l'histoire. Il est d'ailleurs extrêmement intéressé à cela. J'ai lu un article où il parle un petit peu de son livre et il pense qu'aujourd'hui, devant la mollesse de tout le monde, y compris des gouvernements, mais aussi simplement de chacun d'entre nous, il trouvait extrêmement utile, peut-être primordial, de faire justement le portrait d'une femme dont le trait principal, c'est l'engagement et la combativité envers et contre tout, même si tout se tourne contre elle, et où en fait tous les espoirs qu'elle a pu avoir dans un changement, dans un parti politique, dans les gens autour d'elle, ont tous échoué.
Effectivement, je crois qu'il pose cette question qui est intéressante. Qui oserait dire que cette morale exigeante telle que la défendait ou la vivait Rosa Luxembourg ne serait pas nécessaire aujourd'hui de nouveau dans notre époque, même si on a l'air de dire que les choses ont bien changé, que beaucoup de choses on a mis à la poubelle de l'histoire, entre autres depuis la chute des divers gouvernements communistes.
Oui, je crois que pour lui, c'est, dans ce sens-là, c'était important que ce livre soit publié maintenant. Et je pense qu'effectivement, c'est indépendamment de la connaissance qu'on a de cette femme et de cette époque, on peut directement s'interroger soi-même sur les positions que l'on prend face aux réalités d'aujourd'hui, quand on lit ce livre.
Alors, est-ce que tu as envie de nous en faire une présentation, Annette, chronologique ? Parce que malgré tout, le livre suit
voilà.
La chronologie
oui,
de la vie de Rosa
Luxembourg. Je crois que c'est ça qui sera le plus vivant et intéressant pour ceux qui nous écoutent. Et puis, j'aimerais bien lire aussi un ou deux extraits pour typer un petit peu la façon dont cette femme vivait.
Tout à fait.
Alors, il faut peut-être d'abord préciser, donc justement, le rappel que Rosa Luxembourg est née en 1871. Donc ça fait plus d'un siècle, en Pologne, dans un petit village. Elle était d'origine juive et d'autres livres la concernant ont beaucoup insisté sur le fait que, vu son origine juive, elle avait porté en elle quand même des difficultés supplémentaires d'intégration. Elle n'a jamais, elle, revendiqué un quelconque intérêt pour la cause juive, qui n'était pas encore la cause sioniste à l'époque, mais enfin qui allait commencer. Et pour elle, ce qui comptait, c'était le peuple polonais, ou le peuple, les gens pauvres, les ouvriers de l'Europe, indépendamment complètement de toute religion, de toute appartenance particulière. Mais bon, toujours est-il qu'elle a quand même eu, dès son enfance, des difficultés d'intégration à la vie polonaise parce que sa famille était d'origine juive. Ils parlaient le polonais, ils étaient intégrés dans un milieu, disons, cosmopolite à Varsovie, mais elle, elle était intégrée dans un lycée pour jeunes filles parce qu'elle était donc extrêmement bonne à l'école. Elle faisait des études secondaires, mais sa famille n'était pas riche. Donc elle a été admise comme boursière, en fait, dans un lycée de jeunes filles bien de la bourgeoisie polonaise. Il faut peut-être préciser qu'à l'époque, la Pologne était occupée par la Russie, enfin, par le... on parlait russe, les dirigeants étaient russes, et Rosa Luxembourg a dû, en plus du polonais bien sûr, apprendre très rapidement le russe parce que tous les cours dans cette école étaient donnés en russe. Une bonne partie de ces jeunes filles étaient en fait les filles des dirigeants politiques de la ville, qui étaient donc d'origine et de langue russe. Donc dès le départ, elle a subi des humiliations, elle a dû se plier à certaines règles, simplement parce qu'elle n'était pas du côté du pouvoir. Et il semble que dès sa jeunesse, dès son enfance, elle a interprété ça comme un besoin d'être différente et de ne pas accepter d'obéir sans réfléchir. Un autre événement donc très difficile qui conditionne peut-être aussi après sa combativité remarquable, c'est un accident qui lui est arrivé quand elle était petite. Elle a eu probablement, ça c'est difficile de savoir, une luxation à la hanche, enfin elle souffrait de la hanche. Le diagnostic a été fait que c'était un problème osseux, il fallait la plâtrer. Donc, médication ridicule, hein, en l'occurrence. Elle a donc resté immobilisée pendant un an, entre 5 et 6 ans, au moment de sa croissance. Et bien sûr, elle est ressortie de cette immobilisation involontaire, infirme, dans le sens qu'elle boitait définitivement. Et effectivement, elle a toute sa vie eu cet handicap d'avoir une boiterie, une claudication assez importante. Elle a aussi, donc, dès son enfance, vécu une sorte d'exclusion des autres enfants et l'impossibilité de se mêler au jeu, par exemple, et au contact. Et on peut vraiment imaginer que cette enfance difficile a conditionné plus tard son engagement. Alors voilà, ça c'est, si vous voulez, bien sûr que le livre donne beaucoup de renseignements encore intéressants sur sa famille, son père, sa mère, ses frères et sa sœur. Je vais peut-être pas allonger là-dessus.
Mais peut-être ce qu'on peut dire, Annette, ce qu'il y a d'intéressant, quand tu as cité ces deux choses qui ont marqué sa personne, moi je me souviens des derniers moments où justement on va, dans le livre, on décrit la façon dont elle va être, comme tu le disais, quasiment assassinée par la police en Allemagne. Et comme par hasard, à ce moment-là, on lui ressort le fait, on la traite la boiteuse.
Oui, et de sale juive.
La juive. Hein,
on la traite. Oui.
Au debout, oui, elle retrouve, oui, ces choses qui l'ont humiliée et blessée, quoi.
Et probablement que ça a été pour elle toujours quelque chose de difficile à vivre, même si elle a eu le courage de surmonter cela d'une manière assez parfaite, en fait, dans sa vie. Donc, comme je l'ai dit dans le petit extrait que je lisais au début, très vite, elle s'est intéressée au socialisme et disons que ce n'était pas à cause de l'influence de sa famille, qui étaient des gens qui s'intégraient à la vie polonaise, qui tout en devant beaucoup lutter pour gagner leur vie, parce que c'était en fait des petits commerçants, ne pensaient pas qu'il était indispensable et nécessaire de s'affilier à des mouvements politiques de gauche. Elle, tout de suite, elle a été sensibilisée à cela et c'est en fait son génie personnel. C'est une intuition à elle. Elle s'est tout de suite intéressée à ces socialistes polonais qui étaient donc tout de suite qui étaient mis en prison. On parle de gens qui ont été assassinés, qui ont été pendus, qui ont été condamnés par justement les dirigeants russes, et elle a tout de suite été absolument affolée par ce genre d'exécution, indignée, révoltée, et à 18 ans, quand elle termine ses études, elle est prête à s'engager dans la militance politique, mais définitivement, et toute sa vie, elle ne va faire que cela. Elle va toujours travailler avec les mouvements politiques d'extrême gauche partout.
Alors peut-être on peut profiter que tu présentes cette première étape pour faire peut-être un constat sur cette femme incroyable. C'est que, comme tu le dis, consacrer pour une femme sa vie dès l'âge de 18 ans à la politique, comme ça, ça paraît une chose à la fois impressionnante, mais aussi quelque part un peu monstrueuse. On se dit, mais cette femme, comment va-t-elle vivre toutes ces années à ne faire que de la politique? Est-ce que c'est vraiment cela qu'elle a ressenti?
Je crois que c'était quand même pour elle la chose principale. Mais toute sa vie, et Mascalo le décrit avec beaucoup de finesse et de sympathie, elle a en fait toujours été attirée aussi par un autre type de vie. Il dit même à un moment donné qu'elle aimait beaucoup vivre. Elle a eu un appartement à Berlin dans les dernières années de sa vie, qui était un appartement bourgeois, d'après Mascalo. Et c'est vrai qu'elle avait une bonne. Donc quelqu'un qui faisait son ménage, qui faisait un travail, ça nous paraît à nous parfaitement illogique. Mais en fait, il faut replacer.
Alors ça, il faudrait vérifier pour la logique des choses.
Pour quelqu'un qui s'engage si fort dans la défense du prolétariat, disons-le, de l'époque. Mais effectivement, replaçons ça à l'époque. Et le fait qu'elle ait été, elle était extrêmement... positive pour cette jeune femme qui tenait son ménage, et puis elle l'a beaucoup formée, elle lui faisait lire des livres, elle s'en occupait de cette manière-là. Donc elle faisait la bonne patronne, mais dans un sens positif et d'éducation, ce qui nuance un tout petit peu peut-être le propos. Mais c'est vrai aussi que quand elle était jeune, elle a rêvé d'avoir des enfants, d'avoir une vie entre guillemets, de femme normale. Ça ne s'est pas réalisé. Je pense que ce n'était pas possible. Ça faisait partie des rêves de Rosa Luxembourg. Mais c'est vrai qu'elle les a rêvés, qu'elle les a écrits, qu'elle en a parlé. Et toute sa vie, elle a été sensible à d'autres choses que le dogme révolutionnaire, heureusement pour elle.
Mais des rêves qui étaient donc incompatibles avec cet engagement militant politique, dans la mesure où il n'y avait pas assez de temps, pas assez d'énergie. Enfin, qu'est-ce qui a fait que finalement elle n'a pas pu partager sa vie entre ses rêves? Oui, Evelyne.
Est-ce qu'il n'y avait pas l'homme qui convenait, peut-être? Ou est-ce qu'il y a eu l'homme qui aurait pu être le père de ses enfants?
Elle a été très courtisée aussi, Rosa Luxembourg, non?
Je pense que c'est très difficile de se prononcer réellement là-dessus. Elle a écrit, elle a eu des amants, ça c'est sûr. Des liaisons importantes et qui ont beaucoup compté pour elle, mais d'après le livre, ce n'était quand même pas légion. Donc c'était une femme qui était très admirée par les hommes qu'elle côtoyait, mais essentiellement pour son intelligence et sa manière d'être. Jusqu'où allait ce type-là de séduction, c'est très difficile de le dire, et je crois que c'est pas ça qui compte ici. Mais il est sûr qu'elle a rencontré au début de sa vie, quand elle était très jeune, justement quand elle quitte la Pologne à 18 ans et qu'elle arrive en Suisse. La Suisse était donc le pays d'accueil de tous ces intellectuels chassés de leur pays. Et il y avait à l'université en Suisse énormément de femmes russes qui faisaient leurs études, parce qu'elles ne pouvaient pas le faire chez elles pour des raisons d'ordre politique. C'est assez amusant à découvrir aussi cet aspect-là. Et elle est venue à Zurich pour faire ses études de philosophie et de sciences économiques. Elle a fait d'ailleurs sa licence là-bas. Et là, elle a rencontré un exilé polonais comme elle, avec qui elle s'est engagée aussi dans la lutte pour défendre son pays. Et une idylle s'est très vite ébauchée entre eux deux. Et on rencontre ce Léo Yogichès, c'est son nom, dans tout le livre. Et effectivement, il semble qu'au début, leur liaison était très positive. Et elle pouvait rêver faire avec lui une vie, disons, de couple, voire une vie de famille, si difficile que ça soit. Dans un milieu d'exilé politique, mais les contacts effectivement se sont rapidement détériorés, et on a vraiment l'impression qu'il y avait incompatibilité entre l'engagement politique, ces voyages continuels qu'il fallait faire, ces vies où on écrit toute la nuit, et puis réaliser une vie ensemble dans le quotidien.
Et puis, est-ce qu'il n'y a pas, bon, on a, je sais, tu disais, c'est peut-être pas très important, mais on peut imaginer qu'une femme comme elle, qui a à la fois cet engagement et puis ses rêves, elle doit certainement aussi vivre un peu dans ses relations l'idée que la femme forte que l'on admire, mais en même temps dont on a peur, il doit y avoir un peu aussi ces deux choses qu'ont dû vivre ces femmes souvent très respectées et puis en même temps qui n'arrivent pas à vivre autre chose que cette vie d'héroïne, non ?
Moi, je n'ai pas senti cela dans ce livre. J'ai plutôt senti qu'elle était tellement travailleuse, tellement affairée, qu'elle n'arrivait pas à se donner le temps d'arriver à vivre vraiment une relation amoureuse ou une relation avec un homme ou même avec des amis femmes. Elle essaye, elle tente, mais elle est quand même de santé fragile. Et elle a beaucoup de soucis financiers. Elle doit quand même gagner sa vie. Et de temps en temps, elle a des petites pensions qu'elle reçoit. Elle peut publier quelque chose, mais en fait, elle doit rédiger des articles. Elle doit rechercher des journaux dans lesquels elle peut publier. Et c'est pas très facile pour elle. Donc, elle n'a pas l'énergie. Elle a beaucoup d'énergie, mais à un moment donné, elle a plus le temps.
Alors, avant de continuer notre biographie de Rosa Luxembourg, je vous propose une première chanson. Rosa Luxembourg est née quasiment en même temps que la Commune de Paris. Et c'est Le Temps des Cerises par Juliette Gréco.
Quand nous chanterons.